Vous écoutez RTL.
Il est 11h03 et vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Stéphane Bern à la bonne heure.
Bonjour. Absolument. Stéphane. Bonjour Marie Guerrier. Nous vous retrouvons à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais c'est l'heure de la bonne heure avec notre invité Bernard Ménès qui est avec nous pour un livre et encore, je ne vous dis pas tout. Chez l'Archipel. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Je vous en prie, je vais vous présenter de façon un peu plus circonstanciée dans un instant. Mais d'abord, mes petits camarades. À votre gauche, est Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Attention, il va nous révéler un scoop. Eh oui, Cyprien, ici présent, va vous révéler que maigrir n'a rien à voir avec ce qu'on mange.
Eh oui.
Mais on n'est pas forcé de vous croire.
Ça sert à rien de manger avec des légumes, en fait.
Ah bon ?
Eh ouais. Enfin, c'est bien, mais il y a un truc à faire avant.
C'est quoi ?
Ah bah, je vous le dirai tout à l'heure, pour rester.
Vomir.
Non. Ça, c'est après, Patrice. Ouais, merci, Patrice. Il est là.
C'est pas bien, ce que vous faites.
Bah, vous voulez que je vous dise ?
Oui.
Bah, faites la vaisselle.
Montez.
La vaisselle fait maigrir.
Avant de manger, c'est complètement stupide.
Vous allez voir. On saura tout à l'heure.
Ça fait maigrir, mais ça rend plus bête.
On n'a plus envie de la salir, après.
Celui qu'on est forcé de croire, en revanche, c'est Éric Dussard.
Bonjour à tous.
Puisqu'il nous annoncera dans son Zapping Télé que Cannes, c'est fini.
Oui, alors je préfère le rappeler parce que manifestement, peu de personnes se sont intéressées au Festival de Cannes cette année. Effectivement, ça s'est terminé hier soir sur une audience incroyable pour Canal+, qui diffusait. Vous savez qu'ils ont quasiment divisé par deux en un an l'audience. On est passé de 1 700 000 l'an dernier à 1 million tout juste cette année.
Ah bon ?
C'est déjà mieux que la cérémonie d'ouverture qui a fait 400 000.
C'était joli pourtant.
Moi j'étais à Cannes, il y avait du monde là-bas.
Je sais, ils étaient là pour vous Bernard. Mais je vous ai vu chez Laurent Ruquier.
Quand ils sont là-bas, ils ne sont pas devant la télé.
Ils
étaient tous là-bas, bien sûr. Les vrais spectateurs étaient sur place.
Que chantait-on lorsque vous tourniez « Pleure pas la bouche pleine » ou « L'amour dure 3 ans » Ce sera l'objet du test musical de Patrice Carmouze, consacré aux chansons qui ont émaillé votre carrière. À la clé, un très beau cadeau. Une semaine de vacances pour 4 personnes. Grâce à Cap France, premier réseau de villages vacances en France, nous vous offrons un séjour d'une semaine pour 4 personnes en pension complète. Et vous choisirez la montagne, la campagne ou la mer. Vous allez faire gagner un auditeur ou une auditrice.
D'accord.
Ça, c'est déjà pas mal.
Si elle veut, elle peut m'emmener.
Elle peut vous amener.
Ah, voilà, exactement.
Voilà, c'est important.
allez voir sur capfrance-vacances.com. Vers 11h40, nous passerons un coup de fil, non pas à Vladimir Poutine, qui est en France, mais à Mathieu Davina, historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, parce que s'ouvre cette exposition que les deux présidents vont visiter, l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France, en 1717, qui sera inaugurée aujourd'hui à Versailles. Et juste après le journal de midi, autre coup de fil, nous serons en ligne avec le fondateur d'une sorte de Facebook pour les personnes âgées. C'est le style familial, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui ont du mal à manier l'outil informatique.
C'est sur Minitel.
Non, c'est sur papier. C'est Facebook
c'est
sur papier.
C'est un site sur papier.
Carte postale, on appelle ça. Très bien, parfait.
Un journal.
Vous savez, le mal que je vous souhaite un jour, c'est d'être âgé.
C'est pas bête.
C'est tout le mal que je vous souhaite parce qu'on y passera tous.
Non, mais ou pas. Tu n'arriverais jamais. Vous me faites trop travailler.
Eh bien, n'empêche, c'est bien de se penser comment les personnes âgées font alors qu'elles ne savent pas manier l'outil informatique.
Pourquoi on a
pas
mais pour aller sur Facebook, ils sont obligés d'aller sur le truc informatique.
Non, ils n'y vont pas.
Ils vont à la poste.
Non. J'ai essayé de simplifier. Je dis Facebook pour personnes âgées.
On leur ramène un journal chez eux.
Voilà.
Où il y a tout.
Et après, ils font la vaisselle et
on va pas faire. Dieu n'a pas créé le monde en 3 jours.
Non, mais tu sais pas ce que c'est que la fracture numérique.
La fracture, si, ça fait mal. Ça fait très mal. J'en ai eu une le week-end dernier.
Est-ce qu'on peut revenir à mes moutons, c'est-à-dire à Bernard Ménès ? Quand il apparaît sur scène, sans même qu'il ait besoin de parler ou de lancer une réplique, il déclenche l'hilarité de la salle. Force est de... Oh ouais, je vous ai vu. La dernière fois, je vous ai vu dans la pièce avec Fanny Ardant. Les gens, ils vous attendent.
Il faut dire que la pièce est construite de telle façon que les 40 premières minutes sont un peu explicatives et j'arrive un peu...
Vous arrivez au bon moment.
Exactement. Et les gens sont chauffés à blanc.
Voilà.
Alors, force est de constater que le public vient pour lui et ne lui ménage pas les signes d'amitié et d'affection. Ce qui explique sans doute qu'il ne passe pas une saison sans brûler les planches à Paris ou en province. Dans le même temps, il joue dans Sélection officielle de Jacques Richard et sera au générique de Loumois en juillet, avant de jouer aux côtés de Marianne Hépin cet été à Avignon. C'est dire si cet homme est occupé, même si pour une fois, il faut bien le dire, il n'est pas candidat aux élections législatives de juin. dans le 15e arrondissement.
Oui, oui, bah, ça remonte. La dernière fois, c'est 2007. Hein.
Oui, mais enfin bon. Oui.
Ah, c'est pas si vieux.
C'est il y a 10 ans. Hein.
Voilà, exactement.
Oui, c'est rien, 10 ans.
Non, non.
C'est
que disait Sarkozy la dernière fois. Oui.
Il revient aujourd'hui sur son parcours plein de surprises et de rebondissements dans un livre de souvenirs, même s'il affirme dans le titre, et encore, je ne vous dis pas tout, aux éditions de l'Archipel. Il va tout nous dire ce matin, Bernard Ménez.
Merci.
Et alors, j'ai préparé une interview Bernard Ménez par Bernard Ménez.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
C'est le moment de l'interview Ménez par Ménez.
Oula.
Vous êtes ou vous avez été un chaud lapin?
Au cinéma seulement. Non, mais faut pas oublier que madame écoute, là.
Oui, ah, voilà, c'est vrai.
Malin.
En fait, j'utilise des titres de films,
oui,
hein, vous les comprenez.
Oui, c'est sûr. Un peu vous direct comme interview.
Oui. Ouais. Vous avez un oursin dans la poche?
Je pense pas. Alors, par contre, je ne suis pas dispendieux. Je veux dire, je jette pas l'argent par les fenêtres. Je pense que je suis plutôt économe et que je dépense utilement. Mais parfois, je pense que je suis généreux quand même. Bon. Mon entourage me le dit.
Très bien. Est-ce qu'il vous arrive de penser que trop, c'est trop?
C'est un petit film, ça. parfois, oui.
Faut pas dépasser les bornes. Avec
par exemple, en politique, par exemple, dans des déclarations ou dans des quand on commence à creuser le sujet. Mm. Parfois, c'est trop, oui. Mm.
Est-ce que vous pouvez être tendrement vache?
Oui, mais plutôt tendre que vache.
Mm-hmm. Si on vous demande un service, vous répondez pas de problème.
Dans la mesure du... je dis pas de problème au départ, sauf si c'est pas possible.
À qui vous pourriez dire « laisse mes mains sur tes hanches »?
Laisse mes mains sur tes hanches,
votre femme.
Bah, madame, oui, ouais. Madame, oui, bien
là,
sûr.
Vous n'avez pas le choix.
Non.
Écoutez, vous, l'écoute. Ouais. Il avait oublié l'espace d'une seconde qu'elle écoutait. Vous avez vu?
Oui, une seconde. Vous pensez que l'amour dure 3 ans?
Oh non, je pense que l'amour dure plus longtemps. Je suis marié depuis 76, donc 43 ans.
Ah oui, bien.
Ouais, donc avec la même personne.
La même, ah oui.
Celle qui écoute, là.
Ouais, ah oui,
la même.
Il vous arrive encore de vous dire « je me prends pour Al Pacino ».
Ah oui, surtout en chantant, je me prends pour Al Pacino, oui, je suis tellement chanson. Beau, c'est trop au volant de ma Ferrari, en costaré sous les vernis, une rousse, une blonde, une brune, je les aime toutes une par une, deux par deux, bien par trois, elles sont toutes mes ragazzas, didoulaïla, etc.
Eh ben, il fallait pas grand chose pour le lancer.
C'est une très belle chanson. Ouais.
Confidence pour confidence, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit, vous ne direz jamais?
Si je l'ai jamais, je dirai jamais. C'est pas ici que je vais le dire.
Ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. Ça résume un peu votre relation avec le public.
Oui, entre autres, pas seulement. Ouais. Enfin, mes enfants, ma femme, mais le public beaucoup, absolument. Mmh. Enfin, public cinéma et public théâtre.
Ouais, oui. Mais on voit bien dans votre livre, vous avez tout donné à votre carrière quand même. Ils ont été obligés de marcher au pas. Hein.
Alors, c'est vrai que ça crée des problèmes. J'ai toujours mis la priorité. Mes activités artistiques. Voilà. Là, j'ai toujours demandé à ce qu'ils acceptent ça du côté familial, ce qui n'a pas toujours été facile.
Non, mm-hmm. Mais ils l'ont fait.
Je vous dirai pas tout, là.
Bon, écoutez, on va voir. On va essayer de creuser quand même avec Bernard Ménez. Et encore, je ne vous dis pas tout, c'est publié à l'Archipel. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Toujours avec Bernard Ménez. Vous le dites vous-même, Bernard Ménez, vous n'avez jamais beaucoup aimé les confessions. Mais qu'est-ce qui vous a poussé quand même à écrire ce livre de souvenirs et encore, je ne vous dis pas tout?
Alors, je vais faire une petite synthèse rapide. Il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, j'ai deux amis qui m'aiment beaucoup, un dans l'édition François Angèle et Cécile Doutriot, qui avaient en tête de faire une biographie simple, une biographie en racontant. Donc, ils viennent me voir, ils me posent des tas de questions, je leur donne tout ce que je peux, des photos, des affiches, des articles, etc. Et ça fait l'équivalent d'un gros livre, mais en même temps, c'était pas bien écrit et c'était pas éditable, il y avait trop de photos, etc. Ça a fait un monstre, un premier monstre.
Ah oui.
Et à partir de là, j'ai rencontré une fille qui est Carole Vrona, là, qui est l'auteur, en fait, qui est ma plume. et qui est prof de cinéma à l'ESRA, qui est une fan de... J'ai été à un ciné-club qu'elle animait, et en parlant avec elle, j'ai vu qu'elle me connaissait vraiment bien au niveau cinématographique. Mmh. Je lui ai parlé de cette aventure, et je lui demandais si ça l'intéresserait. Elle me dit, ah, mais j'ai déjà fait deux biographies, une sur, Corinne Luchaire, une starlette de juste avant-guerre, et une sur Émilienne d'Alençon. Je les lis, c'est formidable. Mmh. Et entre-temps, Jean-Daniel Belfond, l'archipel, me dit « Ah, moi, j'aimerais bien vous faire une autobiographie. » On s'est réunis tous les trois, et elle a écrit quelques pages, et hop, c'était parti.
Et c'est parti, voilà.
C'est un ange formidable pour elle.
Bah, en tout cas, ce qui frappe dans votre parcours, c'est votre volonté. Vous avez décidé, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés, de devenir acteur.
De théâtre, hein.
Oui. Alors que vous étiez brillant mathématicien, prof de maths.
Voilà, j'ai fait des études.
Vous dormiez un peu en cours, mais...
Ouais.
Vous êtes le frère de Patrice Carmouze?
J'étais reçu à une école normale supérieure. Une sous-normale sup, hein, de l'enseignement technique.
Non, technique, oui.
Et au mois de juin, c'était en 1964, au mois de juin, je remplis les papiers pour entrer dans l'école. Une école où on était en plus payé qu'élève professeur. Et qu'est-ce que je vois? Je dois 10 ans à l'État. Et là, j'étais effondré parce que j'avais commencé beaucoup de théâtre amateur. Je dis, mais le théâtre, c'est fini, là. C'est pas... Donc, je dis, bon, c'est pas possible. Je démissionne aussi sec de la... Je romps je romps le contrat, mais en même temps, je pars faire mon service militaire volontairement. J'abandonne l'idée de pouvoir faire des études pour m'en débarrasser. Et en rentrant... Je me lance
à
l'aventure, oui.
Donc il y a un moment, vous avez failli tout abandonner, quand
oui,
même.
Oui, hein. Parce que
vous donnez des cours de maths pour gagner votre vie, et là vous partez pour le Canada.
Oui, parce que
on vous rattrape par la culotte.
C'est-à-dire que j'étais découragé de ne pas gagner du tout ma vie au théâtre, de faire des petits boulots. J'avais même abandonné l'enseignement, je faisais des petits boulots. Et le Canada, il y avait un appel d'offres extraordinaire pour les Français à l'époque.
C'était l'Eldorado. Mmh.
Ouais, et ils disaient, venez Français, on vous accueille. Oui. Donc je repartais là-bas pour faire enseignement et théâtre. Et c'est en effet 10 jours avant que je rencontre et que je vois par 3 fois Jacques Rosier qui m'empêche de partir, en gros. Ouais, le détail, ce sera dans le livre. Hein.
D'accord. Oui.
Non, mais c'est vrai qu'il vous appelle la soirée. Vous allez passer la soirée chez lui.
La veille au soir,
votre frère vous attend, quoi.
Mon frère m'attend en bas. M'emmène de banlieue. Oui. On passe une soirée. Au bout d'une heure, j'en ai plein le cul parce qu'on parle de tout sauf de ça. Je vais pour me barrer. Et je lui dis, bon, je comprends très bien que vous pouvez pas vous décider. Mais si, il faut rester. Je lui dis, vous êtes sûr? Oui. Dans 8 jours, on commence. Et les yeux dans les yeux, il m'a été tellement convaincant, j'avais rien signé. J'ai lâché mon billet d'avion que je partais le lendemain matin.
Et c'est parti comme ça.
C'est parti comme ça.
Ce qui est étrange, c'est qu'au début, vous avez été considéré comme un acteur de film d'auteur, et ensuite comme un acteur de comédie un peu légère, un peu frivole.
J'ai eu la chance de commencer par Jacques Rosier, film d'auteur. Ça, c'est absolument
c'est vrai.
Ça. Deuxième film, quand même, c'est pas un film d'auteur, c'est François Truffaut, La Nuit Américaine. Là, c'est film, j'allais dire, de prestige.
Ah bah oui.
D'un seul coup, j'étais admis dans la famille des acteurs
de
cinéma.
Vous avez la carte.
J'avais la carte de la famille de cinéma. Oui. Et le troisième, Pleure pas la bouche pleine, c'était Pascal Thomas. Oui. Là, c'est La Rue.
Oui.
Là, j'ai commencé à être connu dans la rue et signer des autographes dans la rue, ce qui a été enfoncé par le chaud lapin qui a suivi juste derrière. Oui.
Oui. Mais après, toutes les comédies un peu légères, c'était pour quoi? C'était pour...
Non, mais attendez, j'ai pas mal tourné jusqu'en 83-84. Oui. Et est arrivé le tube Jolie Poupée.
Oui. C'est vrai, c'est ça, Jolie Poupée.
Oh, Jolie Poupée. Oh, Jolie
Poupée. Ça faisait longtemps?
Un grand coup de cœur.
Ça a été formidable. Non, j'adore.
Moins que jamais, parce que aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne l'entends pas.
Ouais.
Je me rappellerai toujours.
Mais vous écoutez quoi?
Dans son iPhone, il écoute.
Non, mais que je ne l'entends pas dans mon dos.
Ah,
d'accord.
Pas qu'il m'arrête, qu'il la fredonne en me voyant. Vous voyez Marie-Myriam, vous chantez.
Et vous, c'est Jolie Poupée.
Moi, c'est Jolie Poupée.
Oh, oh Jolie Poupée. Voilà. Oh,
vous rencontrez les deux avec Marie-Myriam ou notre invité?
On est en train de faire des dédicaces ensemble régulièrement.
Ah oui, ils sont en livre aussi.
Ils sont en livre, mais formidable, oui. Mais je me rappellerai toujours que...
Ça, c'est l'auteur qui vous le chante au téléphone, cette chanson.
J'avais fait un premier disque en 77, avec des paroles de Jacques Lanzmann, d'ailleurs, pour la campagne anti-tabac de Madame Veil. Ça a été un 45 tours gentil, à moitié vert, à moitié vide, à moitié plein. Donc je m'étais juré, je m'étais dit, il n'y a aucune nécessité d'en faire un deuxième. Ce n'est pas urgent. Alors on m'en propose tout le temps, à cause de la notoriété cinématographique. Mmh. Et jusqu'au jour où...
J'aime pas les filles qui fument.
Bah, c'était la campagne anti-tabac, Madame Veil. C'est une commande de Polydor.
Jolie Poupée, ça a été numéro un des ventes devant Michael Jackson.
Thriller, devant Michael Jackson.
Oui, pas longtemps. Hein,
mais pourtant, il y avait moins de moyens au niveau du clip.
Je suis arrivé à... Hein?
Il y avait moins de moyens au niveau du clip que dans Thriller.
Mais il n'y avait pas de clip. Moi, les clips, c'était les passages en télé.
Les passages télé. Voilà. Oui.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Bernard Ménez, avec... Alors, ce matin, on avait un débat, Bernard. On dit Bernard Ménez ou Bernard Méné?
Ah non, Ménez. Non, je vais vous dire, c'est breton. C'est ça veut dire la montagne en breton.
Ménez-Bray, comme le Ménez-Bray.
Ménez-Aume et Ménez-Bray sont les deux points culminants de Bretagne.
Voilà. Vous êtes un point culminant du théâtre et du cinéma. Voilà. D'ailleurs, 50 ans de carrière.
À 50 ans de théâtre, 40 ans de cinéma et de musique. Ouais. De télé, oui. À peu près.
C'est pas mal, c'est pas rien. Et encore, je ne vous dis pas tout. Hein.
Non.
C'est le titre de votre livre. On va retrouver Cyprien Cini.
À la une, le web de Cyprien Cini.
Faut que je trouve. Attendez, bougez pas. Voilà. Et la dernière trouvaille, cher Cyprien, pour avoir des étudiants toujours attentifs.
Oui, alors vous vous souvenez certainement du film culte Les Sous-doués passent le bac, avec Daniel Auteuil, tout jeuneau à l'époque. Bon, et bien dans ce film.
Maria Pacôme.
Exactement, tout à fait. Mais... C'est la directrice, justement. Voilà. Maria Pacôme, la directrice de l'école, achète une machine à apprendre qui distribue des baffes aux récalcitrants.
Ah oui, c'est vrai.
Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940.
En quelle année ?
En 40.
Qui ?
Kennedy. Non, Trotsky. À Dallas. Trotsky a été assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico.
Voilà, donc la réalité est un peu en train de rattraper la fiction, figurez-vous, car une école de commerce parisienne, l'ESG, Business School, va s'équiper, selon le site Mashable, d'un logiciel d'intelligence artificielle à reconnaissance faciale pour repérer en temps réel les élèves qui ne sont pas attentifs pendant le cours.
C'est une caméra, quoi.
Bah oui, mais qui analyse toute seule. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un derrière la caméra, c'est l'ordinateur qui est derrière la caméra.
Ouais,
un œil qui se ferme, le regard qui part un peu trop dans le vague, tac, le logiciel prénommé Nestor ne laisse rien passer. Alors, dès la rentrée prochaine, le logiciel va être utilisé pour ceux qui suivent les cours en ligne derrière leur ordinateur. Mais à terme, l'idée est d'utiliser Nestor dans les salles de classe afin d'envoyer en temps réel une notification à l'étudiant dès que son attention décroît.
Mais c'est quoi? C'est une décharge électrique?
Alors justement, pour la
120. Du flicage.
Là, ça va être sur le téléphone, par exemple. Hop, une notification. Attention, vous n'êtes pas attentif, réveillez-vous.
Mais si on a coupé son téléphone.
Pardon ?
Si les étudiants
ça marche pas comme ça.
Merci Pierre. Vous pouvez pas reprocher aux étudiants d'être inattentifs.
Regardez, moi j'ai mon téléphone à côté, puis ça n'empêche pas de faire ma chronique. Ma femme m'a envoyé tout de suite un texto, mais non, c'est nul.
Nous, on surveille ce que disent les auditeurs sur Twitter.
Voilà.
Allez-y.
Bon, en attendant, donc exactement, là pour l'instant, ça sera des notifications, mais imaginez la petite décharge électrique qui va bien au moment où.
C'est du flicage.
C'est un petit peu, mais alors ça peut aussi permettre au prof d'améliorer son cours. Car s'il constate qu'au même moment, il y a toute la classe qui est en train de perdre le fil, c'est peut-être un peu de sa faute aussi.
Il y aura sa courbe d'audience, en fait.
Il faut
alors que dans les années 60, quand Bernard Ménez s'était endormi en cours de maths, parce qu'il était trop fatigué, il avait joué la veille.
Non, mais c'est vrai que...
Ils ont respecté votre
Je suivais
sommeil.
Des cours de théâtre à 5h, 6h, je passais au cours de théâtre. Ensuite, je rentrais à 11h du matin du soir pour corriger les copies. Ensuite, je préparais mes cours et je me relevais à 5h du matin pour partir, ou 6h du matin. Ouais. Il me restait plus de temps. Et je finissais par être très fatigué. Et un jour, en effet, devant les élèves, ma tête est tombée, mon nez... le choc de mon nez sur le bureau m'a réveillé. Oui. Et alors, je me suis levé, j'ai dit, bon, maintenant, on va passer à une dictée, et je suis passé dans les rangs pour être sûr de rester debout, et voilà.
Alors, en attendant, ça commence, Cyprien, à sentir l'été.
Mais oui, qui dit été dit plage, et qui dit plage dit maillot de bain. Vous allez d'ailleurs voir bientôt apparaître dans vos magazines, à la télé, à la radio, les conseils minceurs des uns et des autres pour affûter votre silhouette, afin de passer l'épreuve dite du maillot de bain. Mais, Avant de commencer à vous nourrir exclusivement de légumes verts et de graines, écoutez plutôt cette étude relayée par le site internet du magazine GQ. Les personnes qui laissent traîner leur vaisselle dans l'évier grossissent plus facilement. Oui, après une expérience menée sur une centaine de personnes, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que la propreté d'une cuisine et le stress que cela engendre influent sur nos habitudes alimentaires. En fait, pour maigrir, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans votre assiette qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour. D'une manière plus générale, les personnes qui laissent traîner de la vaisselle sales dans l'évier sont les mêmes qui rangent pas vraiment leur appartement, et ainsi de suite. Résultat, vous êtes dans un environnement dit chaotique. Inconsciemment, vous avez le sentiment de ne plus contrôler la situation et vous vous jetez sur tous les paquets de gâteaux, chips et autres chocolats qui traînent.
Les gens mangent les restes qu'il y a dans les.
Mais non,
les
et donc en fait, ils conseillent.
C'est n'importe quoi.
Mais non,
n'importe quoi.
Ils n'ont pas de lave-vaisselle, les gens là.
Mais oui, mais justement, vous vous mettez dans le lave-vaisselle et vous. Mais si vous laissez traîner choses.
Parfois, il n'y a plus de place dans le lave-vaisselle.
Oui, vous faites de la vaisselle. Et donc, en fait, ils conseillent de ranger tous les gâteaux, toutes les boîtes, tous les chips dans des placards, pas les laisser à l'extérieur pour éviter de passer, grignoter comme ça.
Les ranger dans les supermarchés, comme ça.
Voilà. Non. Et donc, en fait, tout dépend de la façon dont vous rangez. Donc, avant de vous mettre au régime, commencez par ranger votre cuisine.
On va bouger quand même et puis manger.
Rangez votre cuisine d'abord.
Ah, c'est vraiment la rubrique flicage aujourd'hui.
Patrice, aujourd'hui, c'est des conseils.
Il y a une question, Cyprien, qui a agité les réseaux sociaux hier.
Oui, alors avec ces températures caniculaires, ça vous a pas échappé. Beaucoup se sont demandé s'ils pouvait venir travailler en tongs et en shorts ce matin. Et la question tient toujours, car il va notamment faire très chaud toute la semaine. Alors, petit rappel, grâce au site internet de LCI, des tenues que vous pouvez porter ou non au travail. Déjà, si vous êtes salarié en relation avec la clientèle, vous êtes totalement dépendant des décisions de votre patron. En gros, vous lui demandez avant et c'est lui qui décide. En revanche, si vous n'êtes pas en relation avec la clientèle extérieure, là, vous avez en fait une grande latitude. Aucun texte, par exemple, aucun, n'interdit le port de tongs et du short au bureau. La seule limite, c'est de respecter la décence. Et l'article cite le cas d'une femme licenciée, licenciement confirmé par la cour d'appel de Nancy en 86, car elle portait au travail des chemisiers transparents sans soutien-gorge. Mais ça, je pense pas que c'est un rapport
avec... Elle empêchait les autres de travailler. La seule limite, c'est le bon goût, quand même.
Non, pas forcément.
C'est pas le bon goût, Patrice. S'il y avait une fashion police, par exemple à RTL, il y a plein de gens qui pourraient plus venir faire les éditions.
Moi, j'ai vu du Hamel en tongs ce matin, les couleurs d'RTL, il était bien.
Vous êtes très élégant, Cyprien.
Merci.
Et je n'admets pas les shorts non plus dans La Bonne Heure.
Non, c'est
une émission un peu convenable, surtout qu'on est filmé.
Bah oui, c'est pour ça. Nous, on peut pas, par exemple.
Non, mais on est filmé, on est assis, on voit pas. On
peut porter ce qu'on veut. Vous, il y a une caméra qui vous filme.
Il y a du public avec nous. Caméra
dessous.
Secret Story.
Allez, on va retrouver Bernard Ménez qui est avec nous, et encore, je ne vous dis pas tout, c'est le titre de son livre, mais on a encore des choses, des informations à vérifier sur votre compte.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors Bernard Ménez, c'est vrai que vous avez fait, en dehors de l'enseignement des maths dont on parlait tout à l'heure, tout un tas de petits métiers. Vous avez été directeur de colonies de vacances, figurant à l'opéra. Il y a d'ailleurs une photo
Alors, j'ai un souvenir extraordinaire de figuration de l'opéra. C'était la dernière d'Aïda, je crois que c'était dans les années 70. C'est une version assez ancienne. Oui.
Et en collant rose, non ?
Oui. Et puis alors, au moment du passage de l'armée égyptienne, il y avait l'armée était composée de 8.
C'était le truc tous ce matin.
De 8 malheureux albardiers.
Ah oui, c'est une petite armée. Le maréchal Sissi n'était pas passé par là.
Peut-être 10-12. Mais qui étaient au premier rang et puis qui avec leurs pics, et ils étaient comme avec des jupette romaine, et j'ai vu et qui se dandinait au tout premier rang en traversant la scène, et je voyais des spectateurs pleurer de rire, sentant leur mouchoir. Pour un opéra de Verdi, c'est quand même un peu dur. Ça a été arrêté net.
La mise en scène a été
trop bien.
Alors vous avez fait contrôleur de train.
Oui, j'ai dans Main Océan.
Oui,
dans le contrôleur dans la. Non, j'ai été contrôleur de wagon-lit.
De wagon-lit. Secrétaire comptable dans un magasin de chaussures pour femmes.
C'est incroyable. Oui, je sais pas comment j'ai débarqué là-dedans. Une petite annonce.
Et alors, calculateur d'actuariat dans un centre de réassurance.
Oui, pas loin, dans le 8e. Et le gars, je lui avais pas dit que j'étais comédien. Et il faisait tout pour que je devienne fondé de pouvoir.
Oui, il voulait.
Il était sûr que j'allais
réussir.
J'ai été obligé de lui. de le décevoir brutalement.
Patrice, vous aimez beaucoup le tennis, le football, oui. Vous avez fait les polymusclés.
Mais je suis toujours président des polymusclés.
Toujours président des polymusclés.
Qui ramasse de l'argent pour les handicapés.
Absolument. Oui. Mais votre père était facteur, vous avez du vélo. Et vous-même, vous avez fait beaucoup de vélo. Vous auriez pu devenir cycliste professionnel.
Oui, à 10-12 ans, quand on allait en vacances avec un petit vélo sans dérailleur, je passais des après-midi à aller sur les Pyrénées, faire 100, 150 km. Oui. Et je crois que j'étais un grimpeur. J'aurais été un grimpeur. Et j'ai failli, en effet, m'inscrire.
Ouais. On a le temps, une petite...
Vous parlez beaucoup de votre nez dans votre livre. Oui. Vous avez longtemps fait un complexe de cet appendice. Oui. Et vous êtes rendu compte qu'en fait, il avait fait beaucoup pour votre carrière, finalement.
C'est sans faire exprès, mais jusqu'à l'adolescence, je trouvais que j'avais un grand nez, que avec les filles, c'était pas terrible.
Et pourtant, il paraît que c'est la promesse de...
Mais après, il faut assurer. Hein.
D'où vous tenez ça, Stéphane?
Je ne sais pas. Moi, j'ai un tout petit nez. Non, il vous a manqué que Cyrano, que de jouer Cyrano.
Ah, bah, absolument. C'est Volinsky qui écrivait ça sur le programme du Roi des Cons que j'avais joué pendant 2 ans.
Et enfin, c'est vrai que vous avez failli tuer Louis de Funès à cause d'un fou rire.
C'est Pascal Thomas qui m'a dit ça. En fait, de Funès, c'est une de mes plus belles rencontres que je raconte dans le livre.
Mais pour la VAR.
Pour la VAR, parce que j'ai été le voir tout à fait à tout hasard pour le rôle. Et puis il m'a dit, c'est vous. Alors c'était extraordinaire. Quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Bernard Minet, je ne sais pas si vous me connaissez. Il me dit, si, je vous connais très bien. Et Pascal Thomas m'a dit, mais oui, il avait vu une projection privée du Chaud Lapin, il n'avait pas arrêté de rire. Et en sortant, il avait une attaque cardiaque. Il a failli mourir de rire grâce à moi.
Donc il se souvenait de vous.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Bernard Ménez. Et encore, je ne vous dis pas tout, c'est le titre de son livre à l'Archipel. On parlera de sélection officielle de film tout à l'heure. Mais d'abord, nous avons au téléphone Mathieu Davina. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane.
Bonjour. Alors évidemment, c'est l'exposition dont tout le monde parle. Oui. Tout le monde parle de la visite protocolaire ou en tout cas de cette exposition parce que le président de la République va accueillir Vladimir Poutine tout à l'heure au château de Versailles. Mais l'événement diplomatique avait déjà lieu il y a 3 siècles. C'était entre mai et juin 1717. Que s'est-il passé alors?
Effectivement, Pierre le Grand annonce dès le mois d'avril, alors qu'il est en Hollande, sa venue en France, à la cour de France, et le régent qui gouverne à ce moment-là le royaume pour le compte du jeune Louis XV, qui a juste 7 ans, est très embarrassé, mais ne peut refuser. Donc, ce que Louis XIV avait refusé quelques 20 ans auparavant, le régent l'accepte une vingtaine d'années après, au moment où Versailles est déserté à ce moment-là.
Mais alors, pourquoi, au fond, on n'aimait pas trop qu'il vienne? Parce qu'il avait des mœurs, il avait des manières un peu brutales, c'est ça, le Pierre?
Alors, au-delà des mœurs un peu brutales, il faut savoir que depuis le début du XVIIIe siècle, Pierre le Grand s'était vraiment occidentalisé. C'était surtout qu'en 1698, lorsqu'il avait demandé à venir... il était en guerre, la Moscovie, ce qu'on appelait encore la Moscovie, était en guerre contre la Suède, et la Suède était l'allié naturel de la France. Donc Louis XIV avait poliment refusé la venue de Pierre le Grand.
Oui, alors il faut dire qu'il visite tout quand il vient à Paris en 1717, l'Académie des sciences, l'Observatoire, les Invalides, l'Hôtel de la Monnaie, on frappe même une médaille en son honneur. Mais alors,
il reste 2 mois hein, quand
il reste 2 mois. Il fallait l'occuper, le garçon s'occuper.
Il reçoit l'enfant.
Oui, c'est le régent.
Mais c'est la mère, je sais pas, c'est qui?
Non, la régent, c'est le régent. C'est le régent.
Oui, mais.
C'est le régent. Philippe
d'Orléans.
C'est Philippe d'Orléans qui dirige.
Mais il va même voir Louis XV d'ailleurs.
Alors, il se comporte pas très bien avec Louis XV, si.
En fait, il est. C'est pas qu'il se comporte pas très bien, c'est qu'il.
Il le prend dans ses bras.
C'est bien.
Il a 7 ans.
Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'y étiez pas, Stéphane Bern.
Je jette sur le carrelage.
Alors, on en a également. Je tiens toute la France dans mes bras, etc. Ça, c'était aux Tuileries.
Oui.
Et puis, finalement, donc, il est à Paris du 7 mai au 21 juin. Et puis, il va venir visiter Versailles à 2 occasions. Notamment entre le 24 et le 27 mai, dans une visite qui est un petit peu une visite éclair du touriste presque lambda, puisqu'on lui fait visiter rapidement et le château et Marly et Trianon. Puis il y revient un peu plus longuement du 3 au 12 juin, où là, il va vraiment prendre ses aises et visiter plus décemment, tout ça sous la conduite du duc d'Antin, qui était le directeur général des bâtiments.
Oui.
Et il va véritablement se plaire, non seulement à visiter les jardins, qu'il va beaucoup apprécier, puisqu'il va les visiter le soir et le matin, et c'est quelque chose qui va extrêmement le marquer. Alors,
Et après, il va tout copier. Hein, oui. Il va tout copier à Saint-Pétersbourg. Il a pris les artistes, il les a emmenés à Saint-Pétersbourg. Ouais. Enfin, c'est comme ça que l'esprit français souffle aussi à Saint-Pétersbourg. Il faut le rappeler, c'est grâce à cette visite.
Des choses formidables à Saint-Pétersbourg, enfin, des œuvres.
Il fait lever des dessins pour les bosquets, pour les jardins, etc. Néanmoins, on sait que maintenant, avec les nouvelles études, que évidemment, Saint-Pétersbourg, c'est le Versailles, mais plutôt dans l'idée du concept, c'est-à-dire que ces grandes ouvertures, ces grandes perspectives, mais quand on regarde de près l'architecture, russe est loin d'être l'architecture versaillaise, et en revanche, c'est l'idée du concept, c'est-à-dire de déplacer une cour à la campagne et d'avoir tout cette cour rassemblée en un seul et même lieu.
Alors, il y a cette exposition, Mathieu Davignac, qui commence le 30 mai jusqu'au 24 septembre pour célébrer ce tricentenaire de cette visite diplomatique. C'est une collaboration entre Versailles et le musée d'État de l'Ermitage. Il y a plus de 150 œuvres qui vont être présentées, je crois, au Grand Trianon.
C'est une exposition magnifique sous la direction, sous le commissariat de Gwenaëlle Affirmin et Thierry Sarment. Donc, une très très belle exposition qui ouvre demain au grand public.
Bon, alors, un dernier mot d'abord, je tiens à le dire parce que les gens écrivent ce matin « Oui, mais Versailles est fermé. » Alors, Versailles est toujours fermé le lundi, il faut le savoir. Donc, ça n'a rien changé pour les visiteurs.
D'habitude, c'est Stéphane qui tourne.
Un dernier mot, Mathieu, parce que vous avez écrit un certain nombre de livres au service du roi. Vous êtes le spécialiste de Versailles. Est-ce que vous êtes aussi le conseiller de la série Versailles, le conseiller historique de la série qui a très bien marché sur Canal, Versailles. Oui. Il paraît qu'on annonce une troisième saison, c'est vrai ?
Oui, il y a une troisième saison qui est en cours de tournage actuellement.
Et Stéphane Bern sera le roi.
Non, c'est les Américains, c'est que des acteurs américains.
C'est vrai qu'à Versailles, à l'époque, on parlait anglais.
Il y a des Français. J'aurais dû postuler.
Mais qui parle anglais.
En tout cas, bravo pour ce que vous faites. On retrouvera tous les livres de Mathieu Davignac sur RTL.fr. Et merci Mathieu de nous avoir parlé de cette visite il y a trois siècles et qu'on commémore aujourd'hui par cette exposition qui inaugure les deux présidents russes et français. Merci beaucoup. On va retrouver dans un instant Éric Dussard pour le zapping télé.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec le Festival de Cannes.
Eh oui, un festival qui s'est achevé hier soir comme il avait commencé sur Canal+, c'est-à-dire dans une relative indifférence avec seulement 1 million de téléspectateurs pour la cérémonie de clôture hier soir. C'est 700 000 de moins que l'an dernier. Et pourtant, alors, cette 70e édition aura été marquée par un sacré événement télé.
Ah oui ?
Vous savez ce qui s'est passé ?
Non.
Pour la première fois depuis 70 ans justement, William Lémergie est sorti de son studio de télématin pour faire une émission en direct de Cannes.
Oui.
Mais bon, ça ressemblait plus à un duplex en direct d'une navette spatiale.
Madame, monsieur, bonjour. Vous voyez sur l'horloge de l'église du Suquet, c'est un quartier qui est au-dessus de Cannes. Il est 6h30 et c'est bien télématin. Nous sommes à Cannes en direct pendant 3h.
C'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas habitués à faire des extérieurs.
L'anniversaire de ce gigantesque festival, je vous dirai dans quelques instants ce que nous allons faire.
Et vous noterez, comme toujours, la grande rapidité des techniciens à résoudre le problème. Ils claquent la molette. Les gars étaient encore tous bourrés de la veille à Cannes. Et je dis, c'est normal, si j'entends comme ça en douce, ça doit être...
Non, ils sont deux.
Donc évidemment, ça a un peu énervé William Lémergie, tous ces petits problèmes techniques. Comment je le sais ? Eh bien, parce qu'ils ont oublié de couper son micro pendant un reportage.
De l'émotion.
Je veux l'image finale.
De la solidarité. Pour apaiser la douleur.
Toujours
debout.
En réalité, vous savez quoi, je suis sûr que France 2 ne veut pas qu'il reste sur la chaîne l'an prochain. Ils veulent qu'il parte vraiment assez vite. Donc, pour ça, ils font tout pour qu'il craque.
Ils le font craquer. C'est du harcèlement.
Si vous avez dit, il reste, il va y aller quand même. Donc, on va faire en sorte qu'il craque. Bon, en tout cas, avis aux amateurs de tenues de soirée, pas d'inquiétude. Si le festival de Cannes est terminé, vous avez toujours les anges de la télé-réalité pour voir des gens sur leur 31.
Franchement, j'ai sorti la grande robe des Oscars. Ce soir, je me suis mis sur mon 36.
Je pense qu'elle avait dû dire qu'elle a mis du 36. Elle a mis du 36 éventuellement parce que sur son 36.
C'est pas mal.
C'est plus chic. Non, mais ça veut dire qu'on fête le réveillon du 31 le 36 décembre, soit le 5 janvier. Or, on est peu nombreux à le faire finalement, de se mettre sur son 36. Ah, les anges, quel bonheur de les entendre parler. Alors, quand ils chantent, c'est encore mieux.
Dans cette aventure, on tisse des liens. Ça nous change.
On est partagé entre nous deux, c'est nos rêves. Assure comme tu gères sur le ring, car c'est marche ou crève.
On est tous dans le même bateau, c'est pour être solidaires.
J'ai toujours voulu chanter en studio. Je suis assez surpris de moi. On va dire que les anges, ça me réussit plutôt pas mal. Et je suis assez fier de moi. Mannequin, acteur. acteur, chanteur.
J'ai été élu 5 fois Mister Camping d'affilée.
Ah, bah, fallait commencer par ça, c'est quand même le plus important. C'est ça le plus classe, quand même. C'est Mister Camping. Et la chanson, ça pourrait être un tube, hein.
Ah, on avait l'impression d'un clip là.
Ouais. On y était déjà. On est au summum des charts avec eux. Hein. Bon, dans la chanson, c'est vraiment, il va falloir encore un petit peu bosser. C'est pas le résultat escompté. Il l'a dit.
C'est pas du tout le résultat escompté.
Côté français, on fait ce qu'on peut. Voilà.
Alors, la rencontre du week-end.
Oui, la rencontre du week-end, c'est bien sûr le premier tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Donald Trump. BFM TV en a énormément parlé. Du coup, au bout d'un moment, bon, comme ils en avaient marre de citer à chaque fois les deux noms, bah, ils les ont packagés.
Un premier sommet, un premier tête-à-tête. On parle d'Emmanuel Trump et de, d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Voilà, j'inverse. Ils sont tellement proches tous les deux en ce moment.
Ah bah oui, c'est vrai qu'ils étaient très proches, surtout quand Trump a essayé de lui arracher le bras. Vous avez vu, hein, cette poignée de main.
Ah oui, il a,
il a bien résisté.
Mais
bien
en fait, Trump a l'impression qu'il fait un bras de fer à chaque fois. Ou qu'il est dans une épreuve.
Il tire vers lui, Trump.
Oui, une épreuve à Fort Boyard, peut-être.
Il a un problème, c'est un problème de costume parce que ses costumes sont. Il ne ferme jamais son veston.
Il s'en fiche. Pense, ouais.
Et elle, par contre, elle s'en fiche pas. Vous avez vu sa veste?
Ah, ouais, bien
50 000 euros.
Chic, ouais.
La veste de Dolce Gabbana. Là,
pas mal.
Ah, vous la trouvez pas mal, vous?
Bon, oui.
C'est rien à côté du travail qui a été fait.
Non, il y a beaucoup de travail, non. Bien sûr, mais bon.
C'est là qu'on voit que lorsque l'on parle de politique, on parle toujours du fond. Donc, Donald Trump, en tout cas, serait bon pour un remake d'Interville. Si éventuellement il y a une petite épreuve de tir à la corde, je pense qu'il serait brillant. D'ailleurs, cette poignée de main, elle a fait couler beaucoup d'encre.
Ah bon?
Et beaucoup de salive aussi sur BFM TV. C'est-à-dire que, bon. Ils ont fait le week-end là-dessus. Hein. C'était édition spéciale, poignée de main. Ils avaient énormément de choses à dire là-dessus. Ça a duré des heures.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette poignée de main entre Emmanuel Macron et Donald Trump?
Vous voulez la poignée de main physiquement? Alors écoutez, elle était absolument édifiante, cette poignée de main. Non mais très sérieusement, c'est pas du tout anecdotique. C'est que ces deux hommes qui, quand ils vous serrent la main, alors moi j'ai jamais serré la main de Donald Trump, en revanche celle de Macron, oui, ils vous écrasent la main et ils vous tirent vers eux. C'est-à-dire qu'il y a une prise de contrôle dans la poignée de main. Et aucun d'eux n'a cédé. C'est-à-dire que ça durait très longtemps, ils avaient les jointures chacun très blanches.
Les jointures très blanches, ça va, ils faisaient pas un garrot non plus, hein.
Ah, la main de Trump était blanche.
On a vraiment rien à dire.
C'est hyper important.
À deux reprises, Trump essaie d'enlever sa main et Macron la lâche pas. Vous pourriez travailler sur BFM TV, les deux. Non, mais les jointures très blanches, elles écoutaient, on a l'impression qu'ils étaient en train de faire une prise de sang, qu'ils avaient fait un garrot. Bon, en même temps, cette journaliste Anna Cabana est toujours très inspirée. Souvenez-vous de ce qu'elle avait déjà dit sur François Hollande.
Ce qui est extraordinaire avec François Hollande, c'est une forme de contentement de soi, une espèce d'arrogance de celui qui revient de loin et qui est sûr de sa bonne étoile. Au fond, il astique tous les matins sa bonne étoile.
Ah bon, où est-ce qu'il astique sa bonne étoile? Sous la douche? Tous les matins? On veut plus de détails.
Et on termine avec les Molières.
Oui, la cérémonie qui récompense le théâtre, ce soir sur France 2, qui est aussi l'occasion de faire passer des messages. C'est ce qu'avait fait l'auteur Sébastien Thierry.
Un acteur mauvais qui joue faux pendant 507 heures, il a le droit au chômage. Un auteur du privé qui a écrit une merde, il se retrouve dedans. Si on veut garder notre train de vie, on est obligé de faire un succès à chaque création. Mais vous savez ce que ça veut dire, un succès? Un succès, ça veut dire qu'on doit plaire à tout le monde. Au comité d'entreprise, aux personnes âgées, aux dentistes de province. C'est pour ça qu'on écrit des pièces stupides.
Ah bah c'est pour ça, tout s'explique, on comprend mieux. Les Molières, c'est à 22h45 sur France 2. Et juste avant,
il y a Fleur de Cactus avant.
Du théâtre en direct, Fleur de Cactus avec Catherine Fro.
Merci beaucoup Éric Dussard. On va retrouver Bernard Ménez, on va continuer à parler de son livre et encore Je ne vous dis pas tout et de...
Du film Sélection
officielle. A tout de suite, RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Bernard Ménez. Alors Bernard, on parle de votre livre évidemment, mais il y a Sélection officielle.
Oui, qui vient de sortir pendant le Festival de Cannes.
Oui.
Alors le titre évidemment correspond au Festival de Cannes. Mais en fait, Jacques Richard avait il y a 3-4 ans mis en route le tournage sur un festival de films qui se situait sur l'île de La Réunion, avec des moyens un peu difficiles. Et le film est complètement à l'image du résultat. C'est-à-dire qu'il a eu plein de problèmes financiers et il a fallu résoudre des tas de choses et qui font que ça donne l'idée de ce qu'est un festival qui est en difficulté tout le temps, qui est fait à l'arrache. Ça donne un truc assez rigolo. Moi, je suis le projectionniste Charlot, il s'appelle Charlot, et qui se retrouve avec des réalisateurs totalement improbables. Certains arrivent avec leur pellicule dans un sac poubelle, les autres ont perdu et veulent passer leur film alors qu'il n'est pas prévu, etc.
Puis il y a une histoire d'amour aussi en filigrane.
Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, une très jolie comédienne. Dont le mari, d'ailleurs, Agnès Vallée, dont le mari, d'ailleurs, est le réalisateur de Mobile Home. Alors là, je conseille aux gens qui n'ont pas eu le temps d'aller au Festival de Cannes de voir ce film, Mobile Home.
Non, enfin, que les vérandas, ici, nous.
D'accord, voilà.
Mais un Mobile Home, non, l'un n'empêche pas l'autre.
Et Bruno, rentrer dans la véranda avec un Mobile Home. Et Jackie Berroyer nous fait un paternel très truculent. Ouais, Jackie toujours. Berroyer, un producteur vislard qui profite de sa situation si possible.
Non, mais il n'y a que des gens incroyables. Jean-Claude Dreyfus, Bruno Puzulu.
Et Puzulu nous fait un réalisateur fou qui retire au dernier moment son film parce qu'il considère qu'il n'est pas pris assez au sérieux. Et il est très drôle. Puzulu est très drôle.
Voilà, donc ça s'appelle Sélection officielle. C'est actuellement dans les salles. Courez-y. De Jacques Richard, absolument. Voilà. Alors, nous avons au téléphone M. de Lesquin, qui est le créateur de Familéo. Bonjour, monsieur.
Bonjour Stéphane.
Bonjour. Alors Familéo, c'est un réseau social familial qui a pour but au fond quoi, d'entourer les seniors qui sont un peu isolés et pour qu'ils reçoivent davantage de messages de leur famille.
Eh ben vous avez tout compris. C'est exactement ça. C'est un nouveau service qui permet de rapprocher les petits-enfants de leurs grands-parents, voilà, en leur permettant de communiquer plus et mieux.
Oui, voilà. Mais alors il y a quand même une chose, c'est qu'il y a Facebook pour ça. Bah moi, j'ai beaucoup de personnes un peu âgées autour de moi qui me disent
Je suis sur Facebook,
mes petits-enfants m'envoient des photos, ils sont au bout du monde, ils sont même sur FaceTime,
sur WhatsApp, etc.
Donc, les grands-parents...
Ils s'y mettent.
Bien sûr.
Alors là, c'est pour des grands-parents qui ont raté le coche du numérique, c'est ça?
Alors, pas que. Alors, c'est pour des grands-parents qui, effectivement, sont parfois éloignés des nouvelles technologies. Voilà. Alors, vous savez, aujourd'hui, être grand-parent, c'est aussi avoir un certain âge. Et donc, il y a de nombreux grands-parents pour qui le besoin est énorme. Hein. C'est un vrai sujet d'avoir du lien familial tout en étant éloigné des nouvelles technologies. Mmh. Voilà, le numérique, c'est pas si simple.
Oui, c'est pas simple. Pour déclarer sa feuille d'impôt, moi, personnellement, j'ai tendance à refuser de passer par l'Internet. Oui. C'est pas du tout pratique pour moi.
Parce que je comprends.
Avec un métier où on a 36...
Mais ça vous autorise pas à ne pas déclarer vos revenus, en revanche, Bernard.
Revenons-y,
monsieur Lesquin. Donc, Armel, si on comprend bien, vous regroupez tous les messages envoyés par une famille de son ordinateur ou de son smartphone, vous les imprimez, en fait.
C'est ça, en fait, voilà.
C'est des mails imprimés.
On a fait une application mobile, voilà, un peu comme un WhatsApp ou un petit mur Facebook, qui permet aux enfants et aux petits-enfants d'une grand-mère ou de grands-parents d'envoyer des messages qui seront restitués sous la forme d'un petit journal papier, une sorte de petit album photo, imprimé et envoyé par la poste.
Très bien.
Ce qu'on appelle la gazette, la gazette Familéo. Nous, on se charge de les imprimer, de les envoyer par la poste aux grands-parents qui sont un peu éloignés des nouvelles technologies.
C'est plutôt une bonne idée. Et vous avez combien d'abonnés à votre site ou à cette application Familéo?
On a plus de 30 000 utilisateurs aujourd'hui. On a commencé dans les maisons de retraite, où c'est les maisons de retraite qui imprimaient. Et là, on a sorti la version à domicile pour les personnes âgées donc qui sont chez elles. Et puis, vous savez, vous parliez du numérique tout à l'heure, mais juste la petite anecdote rapidement. L'idée de créer Familéo, elle est venue de mon associé, l'un de mes associés, Tanguy, qui allait visiter sa grand-mère qui a pourtant une tablette, vous voyez.
Oui.
Et en fait, on s'est juste rendu compte que, en fait, elle n'était pas très à l'aise avec le numérique. Voilà. Elle, ce qu'elle aimait, c'était les lettres, les cartes postales. Le papier, ça a une saveur que le numérique n'a pas. Et pourquoi? Parce qu'elle les gardait. Elle gardait toutes ces petites cartes postales précieusement.
Mais oui,
dans
mais
son
pourquoi
crétaire.
Les gens n'envoient plus de cartes postales? Moi, j'en vois.
Bah, voilà. Si, moi, j'en envoie.
Bah oui, moi aussi.
Mais c'est un peu comme un fax, en fait.
Mais demandez à un jeune de 25 ans s'il envoie beaucoup de cartes postales, il vous dira que non, ils écrivent tout.
Bah non, c'est
des mails.
Déjà, ils savent plus écrire. Il faut déjà savoir écrire.
Mais ça oblige à avoir des messages quand même un peu plus charnus que c'était un message envoyé par
Ça fait débat dans le public. Hein. Je peux vous dire qu'il y a du brouhaha dans le studio.
Il y a des gens qui sont pour.
Il y a des gens
qui veulent s'inscrire.
C'est si le message, c'est mémé, je veux un cassoulet. Bon, l'imprimer sur la gazette, c'est pas terrible.
Non, je sais que...
C'est des, même quel que soit le message, chaque nouvelle est une bonne nouvelle. C'est des, ouais. c'est des messages d'amour. En fait, ce qui compte, c'est pas la qualité, forcément. Évidemment que c'est bien de mieux écrire à sa grand-mère. Ce qui compte, c'est de lui dire qu'on l'aime, qu'on pense à elle.
Exactement.
Et aujourd'hui, quand vous savez plus écrire de lettres ou de cartes postales parce que vous avez 30 ans, 25 ans et que vous avez plus le réflexe d'envoyer une lettre ou une carte et que vous avez juste le réflexe d'être sur votre smartphone à la plage à Saint-Malo en train d'envoyer un selfie, et ben quand vous faites ça à votre grand-mère et qu'elle reçoit cette intention, croyez-moi,
elle
est hyper heureuse.
Ouais. Quel est le coût juste à titre
indicatif pour ça? C'est pas cher.
On commence. Il est bon.
C'est un 2000 abonnement euros. Qui commence à 4,90€ par mois sur une offre découverte, une gazette par mois. Mais attention, en ce moment, en plus, un gros hasard, il y a un code promo. Et la première gazette est à 1€.
Oh oui, mais alors, attendez. Mais si je m'abonne, c'est
le code promo. Alors, je vous donne le code promo pour
Stéphane va s'agacer.
Attendez, le code promo pour les autres. C'est quoi ?
C'est Stéphane Bern, le code promo. Vous tapez Stéphane Bern.
Tout s'explique, c'est encore une affaire,
vous
Stéphane Bern.
Vous tapez Stéphane Bern sur Familio, mais vous ne me tapez pas moi. C'est tout ce que je vous demande.
Il touche combien, là ?
C'est encore un business, Stéphane Bern.
Mais je suis l'agent de Stéphane Bern.
Cette semaine, seulement.
Alors, j'aimerais juste savoir une chose. C'est-à-dire que, encore faut-il que les petits-enfants aient envie, parce que c'est les grands-parents qui s'inscrivent.
Mais non, c'est souvent les petits-enfants.
Qui inscrivent, d'accord. Oui. Parce qu'encore faut-il qu'ils aient, après, qu'on alimente la gazette.
Bah, vers la fin d'année, quand il y a les étrennes, il y a les gazettes, plus épaisses.
C'est exactement. En fait, c'est un réseau familial. Oui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand j'envoie un message à ma grand-mère ou à mon grand-père, je parle beaucoup de ma grand-mère, mais évidemment, mes grands-parents, mon grand-père aussi, eh bien, mes cousins peuvent le voir. Il y a un mur familial qui un peu fait la cousinade. Ce qui fait que quand mon cousin envoie un message, eh bien, j'ai aussi de ces informations, alors de manière un peu indirecte, puisqu'il s'adresse d'abord à ma grand-mère. Mais vous voyez, ça stimule l'usage.
Soit toujours à mes étrennes. Ouais. Et alors après, pour les
faut qu'ils soient toujours vivants, naturellement, sinon ça marche moins bien.
C'est des groupes de WhatsApp, ça.
C'est le principe des groupes de WhatsApp. Mais en gazette, sur papier. Merci beaucoup, Armelle Delesquin, et bravo pour votre initiative. Familéo. On mettra tout sur le site d'RTL.fr pour que nos auditeurs qui sont intéressés puissent vous retrouver.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Bernard Ménez. Alors, c'est l'interview où il va falloir choisir, et je sais que choisir, c'est renoncer, c'est très difficile. Si je vous demande, qu'est-ce que vous préférez, le théâtre ou le cinéma ?
Le théâtre, parce que j'ai toujours voulu faire du théâtre et je pensais ne jamais, vu mon physique et mon grand nez, ne jamais faire ni de cinéma, ni de télévision, ni d'autre chose. C'est un miracle que je suis devenu acteur de cinéma.
Est-ce que vous préférez le piano ou la cuisine ?
Ah, il n'y a pas photo. Je joue du piano. Le piano, j'en ai fait 7 ans et j'en joue encore régulièrement et même en scène et tout. La cuisine, j'y touche pas. Alors c'est clair. Non. Moi, je trouve que j'ai rien à foutre là-dedans, moi.
Et vous savez où elle est, la cuisine, chez vous ?
Oui, quand ma femme m'appelle, je sais par où il faut passer.
Vous préférez la Bretagne ou Paris ?
Ah, je suis un breton parisien. C'est vrai que j'aime beaucoup Paris, mais pour une simple raison, c'est que je pars souvent de Paris. Pour toute la France, là.
Oui, vous êtes tout en tournée.
À l'automne, je vais sur 3 pièces, je vais dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Ah oui. Et c'est vrai que je regrette de ne pas aller souvent en Bretagne, où on ne joue pas assez au théâtre en Bretagne.
Qui vous a le plus inspiré, Bourvil ou De Funès ?
Je pense que je suis plus proche de Bourvil, du fait de cette timidité, du fait de cette
maladresse. On vous a parfois comparé à lui. On dit que vous êtes le fils spirituel.
Galabru me disait, quand il m'avait vu, il me disait « Ah, t'es notre nouveau Bruno de Bourvil ». Par contre, j'ai une admiration sans borne pour
De Funès. De Funès, oui. Vous préférez hier ou demain ?
Ah, pour pas dire aujourd'hui. Oui.
Vous pouvez choisir aujourd'hui.
J'espère des demain qui chantent.
Ça dépend si vous chantez ou pas.
Des lendemains qui chantent.
Le vélo ou la voiture ?
Alors, autrefois, c'est le vélo.
Oui, maintenant.
Mais avec l'âge, c'est quand même la voiture. Et puis, alors, le vélo à Paris, moi, je trouve que c'est dangereux.
Très dangereux.
C'est comme tous les deux roues, scooter.
C'est très dangereux, oui. Vous préférez les mathématiques ou la poésie ?
Autrefois, c'était les mathématiques, bien sûr, quand je faisais des études. Mais J'ai un bac qui s'appelle A'. C'est-à-dire que j'ai fait latin-grec jusqu'au bac. Et donc, j'avais même traduit Virgile en essayant de faire des vers, hein, l'Énéide, etc. Et la poésie a probablement pris le dessus.
Vous préférez le monde politique ou la famille des comédiens ?
Ouais, c'est pas terrible les deux côtés.
C'est pas si différent, non ?
Non,
mais tu joues la comédie aussi.
Comment ?
C'est une famille les comédiens.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas vraiment une famille, parce que la famille des comédiens. Moi, j'ai beaucoup d'amis comédiens, mais c'est pas c'est des amis de circonstance. Oui, c'est des amis. En fait, les comédiens sont tous un petit peu
en concurrence
les uns avec les autres.
Oui. Alors, c'est pas vraiment
les politiques, c'est moins concurrent, mais c'est tellement plus faux cul.
Vous allez au Molière, par exemple, ce soir ou pas ?
Comment ?
Vous allez au Molière ce soir, par exemple ?
Alors, je vais vous dire une chose. Ça fait des années que je n'ai pas été. Au début, je présentais même dans les Molières. Mm-hmm. Bon, je ne suis pas nommé, c'est pas grave. Je ne suis pas nominé, c'est pas grave. Mais y aller pour se trouver très mal placé après 50 ans de théâtre, je leur ai dit, si vous voulez bien me placer à peu près correctement, je viendrai. Sinon, ce n'est pas la peine de me le proposer.
Voilà, exactement.
C'est bien fait.
On va appeler Jean-Marc Dumonté. Allez, on va retrouver Patrice Carmouze pour son quiz musical.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, je rappelle, Patrice, que nous jouons pour faire gagner une semaine de vacances. Eh oui, grâce à Cap France. Eh bien, dans un peu le premier réseau de villages vacances en France. Une séjour pour quatre en pension complète à la montagne, à la campagne ou à la mer. Alors, nous jouons Bernard et moi pour Martine et le reste du monde pour Véronique.
On est tous les deux. C'est un petit reste du monde.
Oui, petit reste du monde. Qu'est-ce que vous avez fait de Régis ?
Non, je ne sais pas, on l'a perdu. Oui.
Avec la chaleur, on a enlevé le maillot.
Très bien. Alors, ce sont des chansons qu'on chantait pendant que vous tourniez. Par exemple, quand vous tourniez Pleure pas la bouche pleine, c'était en 1973 et c'est à vous de jouer, Bernard et Stéphane. Voilà, on chantait par exemple ça, mais qui chantait ça ?
Ah ben c'est l'autre là, comment il s'appelle ? Les cheveux blonds, Patrick Juvet.
Oui.
Que l'on appelle l'autre.
L'autre attitude mode réponse.
Patrick Juvet, c'est le problème.
Patrick Juvet, je vais me marier. Marie. Alors, en 77, vous avez sortez le roi des cons, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mais c'est à eux de répondre maintenant. On chantait ça.
Il chantait pas. Plastique Bertrand.
C'est pas Plastique Bertrand.
Ah, j'ai compris Super Trump. J'ai fait des galas avec Plastique. Moi. Après, parce qu'il continuait en 80, les années 80.
J'ai fait avec
des tas de galas avec lui. Enfin, oui. Très gentil.
Très gentil, mais il chantait pas beaucoup.
Alors, ça plane pour moi, on dit que c'est pas lui.
C'est pas lui.
Ça,
non, c'est
vous. Moi, je l'ai vu chanter réellement.
Ah oui, et c'était pareil, c'était la même voix.
Ça ressemblait. Oui.
Alors, on parlait de Louis de Funès, de la marque, 1980, et on entendait cette chanson. Lerita Mitsuko, Marcia Baila.
Ce petit bum, là, ça pensait que vous êtes en train de tricher, comme un cochon. Vous l'avez trouvé un peu rapidement,
celui-là. Non, je connais.
Il y a l'œil qui frise, quand même. Non, mais quand vous rajoutez un petit bum...
Non, mais sinon, je l'aurais dit. Hein. Oui. J'ai pas voulu
le couper la parole. Mais
je laisse répondre.
Non, c'est très bien. C'est le reste du monde qui joue. Alors, au 86, vous avez joué dans Maine Océan de Jacques Rosier.
Oui.
Et il y avait cette chanson.
Ah bah Julie Pietri.
Lève-toi.
C'est facile,
hein. Elle
est les beaux yeux de la chanson française de l'époque. Oui. Très beaux yeux. Verts.
C'est vintage, c'est sympathique.
Vous pourriez faire partie de la tournée H tendre.
Écoutez, j'avais été annoncé, c'était il y a 6-7 ans ou 10 ans, et le producteur ne m'avait pas fait signer de contrat. Et il m'annonce au Palais des Congrès.
Non, c'est Christophe de Chavannes, le nouveau producteur.
Oui, mais c'est Michel Alguier à l'époque.
C'était H tendre et chèque en bois. C'était autre chose.
Il y a des gens qui me disent, c'est bien, tu es dans la prochaine tournée. Il dit, mais oui, mais il faudrait peut-être qu'il m'en parle.
Il fasse un contrat.
Et du coup,
on va négocier. Je crois que Patrice le connaît bien.
Ah bon ? Patrice a fait la tournée aussi, je crois.
Alors,
de partout.
2002, c'est un film qui a le titre d'une chanson. C'était « Laisse mes mains sur tes hanches ».
De Chantal Lobby.
Mais on chantait aussi ça. Mais alors, ils sont deux, là. Le Garou, là.
Garou,
oui.
Il a bossu, non ?
C'est un rôle, Stéphanie. Il n'est pas bossu, Garou.
Et qui
pour
Attendez, on l'a pas entendu.
Quand même.
C'est ça qu'on...
Attendez.
Là, c'est Garou.
J'ai trouvé
C'est sa compatriote.
Ah ben, Céline Dion.
Oui, Céline Dion. Ah oui.
C'est un tube, ça.
Et c'était sous le vent.
Ça serait bien que dans le public, on arrête de siffler. Hein.
Ah ben, alors, j'ai rien entendu.
Je vous ai vu. Hein.
Non,
je vous ai vu.
Ouais, mais j'ai pas compris.
3-2004, c'était un film de Pascal Thomas, Ensemble, oui. Nous aimerons, etc. Et on chante. Là, il y avait une chanteuse qui chantait ça. Qui
c'est
vrai.
Notre ami Amel Ben.
Ma philosophie.
Trois parts.
En 2012, le film de Beck BD, L'amour dure 3 ans, et il y a eu cette chanson qui fait un énorme succès, vous allez reconnaître évidemment.
Elle n'est pas morte.
Non, elle n'est pas morte, Adèle.
Adèle,
ça mériterait un bravo. Bravo, allez, 4-3. Si on peut passer
j'ai
un message.
J'ai fait un jeu de mots comme ça, moi, quand j'ai joué à la ville de Delle. Il y a une ville qui s'appelle Delle, D-E-L-L-E. J'avais inclus le jeu de mots.
Est-ce que quelqu'un est mort, Adèle?
Elle me parle d'une tante, je dis ah non, mais elle n'est pas morte, Adèle. Alors,
bon, bah, alors, vous allez rejoindre le club de Patrice.
Ouais. Voilà.
Il y en a deux en France. On a les deux.
Alors, 2016, il y a eu le Cabanon Rose. Et
ah, Cabanon Rose de Jean-Pierre Mocky.
De Jean-Pierre Mocky, absolument. Voilà. Et il y avait cette chanson.
What can I say? Ah, bah, c'est Rihanna.
Et oui. Il est fort, lui.
Ouais. C'est pour Eric, ça.
Quatre par twerk.
Ah, work.
Work, du fessier.
On va revenir un tout petit peu en arrière. En 1976, c'était Dracula et fils.
Fils. Ouais. Le fils de Christopher Lee.
Christopher Lee, ouais.
Très bon film de Molinaro.
Il y avait un chanteur qui chantait ça.
C'est pas Rihanna, ça.
Claude François.
C'est vous. Hein. Ah. Ouais, c'est Claude François.
Ah ouais.
Absolument. Le vagabond.
Je crois que Stéphane a pris un coup de chaud.
Ce mime.
Il mime maintenant.
Ah, il va falloir rendre l'antenne.
Une dernière. Et oui, et puis après, on fait un.
Allez.
Oui. Alors, c'était pendant la taupe de Robert Lamoureux.
Je veux pas.
Que j'ai joué.
Ah, c'est Benabar.
Benabar. Donc, allez, attention. En 80. Là, il va falloir être très rapide. En 95, vous avez joué Oscar.
Oui.
Et. La grande chanson qu'on chantait à cette époque-là, c'était ça.
Macarena, Los del Rio.
C'est Eric.
Los del Rio, il y a Eric qui pouvait
avoir. Sur le fil, Stéphane.
Allez, sur le fil. C'est donc Véronique. C'est Véronique qui gagne le séjour. Absolument.
Elle peut partir avec l'autre. L'autre, c'est
elle peut partir avec elle. L'autre, c'est Martine.
Véronique.
Ah oui, c'est Martine, l'autre.
Elle peut partir avec Martine.
C'est Cap France. Merci beaucoup. Merci Bernard Ménez.
Merci à vous.
Sélection officielle au cinéma. Et puis encore, je ne vous dis pas tout, à l'archi.
Voilà.
Demain, nous parlerons des animaux avec le philosophe Frédéric Lenoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est 12h30.
Vous écoutez RTL.